Chers auditeurs, notre chaîne de podcast a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle série d'épisodes dédiés à l'innovation. Pour ce premier podcast sur cette thématique, le général de brigade aérienne Armand Després de la Morlaix vous transportera dans les années 1910 à travers son récit passionnant sur l'invention du bombardement aéronautique.
À ma chère famille, je vous écris ces mots depuis ma cellule de la maison d'arrêt militaire de Rennes. Nous sommes en juin 1942, la défaite de nos armées face à l'ennemi est consommée, et moi, Armand Després de la Morlaix, général de brigade aérienne, précurseur et innovateur dans le domaine de l'arme aérienne, j'ai encore le plus grand mal à comprendre comment j'ai bien pu en arriver là. Il n'y a rien que je puisse faire pour le moment pour changer le cours des événements. Je préfère donc trouver de quoi occuper mon temps de manière constructive. Il m'est bien arrivé de me défouler sur mes geôliers de temps en temps. Ils ont beau être mes gardiens, ils resteront mes ennemis tant qu'ils n'auront pas quitté le sol national. Un de mes petits plaisirs, c'est de les haranguer et de les titiller dans leur propre langue. Il faut voir l'expression de leur visage. Je ne pourrai jamais remercier suffisamment ma nourrice de m'avoir enseigné la langue de Goethe. Mais revenons-en à l'objet de cette lettre. Je suis né en 1878. J'ai 62 ans. J'ai servi l'armée de 1897 à 1933. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, mais quelques-uns de ces hauts me semblent dignes d'être narrés, notamment ceux qui ont mené à la naissance du bombardement aérien, une aventure à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur de contribuer à titre personnel. Aujourd'hui, l'efficacité des Stukas allemands contre les forces polonaises est suffisamment flagrante pour souligner à quel point le bombardement aérien joue un rôle déterminant dans la guerre d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il a fallu, pour y arriver, passer par une succession d'innovations qui, à leur époque, relevaient d'esprits téméraires et inventifs. Des gens de toute nature y contribuèrent. Militaires et civils, officiers et sous-officiers, inventeurs et pilotes, la liste est longue. Avec le temps, je peux affirmer que l'innovation n'est pas réservée à une élite. Elle est le fruit des idées de découvreurs, d'esprits curieux de la nature des choses, créatifs et débrouillards, toujours prêts à améliorer ce qui existe avec ce petit plus qui les rend curieux de tout. C'est grâce à eux que l'avion s'est développé, pas à pas, pour devenir aujourd'hui un des instruments essentiels de la victoire sur l'ennemi. Cette suite d'innovations a contribué à infléchir l'utilisation de l'avion. En ce sens, on peut parler d'innovation d'usage du matériel existant. C'est important, car nombreux sont ceux qui considèrent l'innovation comme étant une amélioration technique de ce qui existe. C'est vrai, mais c'est incomplet. L'innovation d'usage est tout aussi importante que celle qui porte exclusivement sur la technique. Je vais donc essayer de vous retracer par cette ligne cette somme de petits pas qui ont conduit à la transformation de l'avion en bombardier, un rôle qui, au départ, n'était pas du tout envisagé. L'aviation a d'abord été considérée comme un sport. C'est toutefois Clément Ader qui eut le premier l'intuition du potentiel de sa militarisation. Il eut l'intuition que l'usage de l'avion pourrait changer. Autour de 1900, il pressentit que les avions largueraient un jour des cartouches explosives sur l'ennemi. Bien que ce soit chose acquise aujourd'hui, ce fut très précurseur à l'époque. L'aviation militaire naquit pour de bon en 1909 dans différents pays européens, mais aucun pays n'eut l'idée de s'en servir pour bombarder. L'avion était surtout considéré comme une plateforme d'observation en appui des forces terrestres. C'est d'ailleurs dans ce rôle que je conduisis mes missions aériennes lors des engagements au Maroc avant la Grande Guerre, mais j'y reviendrai. En 1910, en France, des esprits féconds eurent l'idée de tester le largage de projectiles de différents poids. Je me souviens encore des essais. On en parla beaucoup dans les journaux de l'époque. Les poids étaient largués entre 600 et 800 mètres d'altitude. On ne savait pas trop à l'époque ce que ces essais allaient donner, ni même ce qu'on pourrait en faire militairement. Mais quelqu'un eut l'idée de tirer des fléchettes en acier sur des cibles aériennes. Une simple toile d'un côté, une fléchette de l'autre. C'était le principe des ballons de baudruche que l'on faisait exploser avec des fléchettes dans les fêtes foraines. Ce qui fut remarquable, ce fut d'avoir pensé à combiner deux outils existants, et bien distincts, l'avion et la fléchette, la fameuse « balle-bond », pour en transformer l'usage et créer une nouvelle arme. Nous pensâmes ensuite à remplacer les fléchettes par des grenades, même si les premiers tests réalisés en 1912 n'eurent que peu d'effet. Le concept devait encore être travaillé. De leur côté, les Italiens eurent bien l'idée d'utiliser l'avion pour des missions de reconnaissance aérienne contre les Turcs en 1911, mais leurs essais de bombardement furent inefficaces. Le vrai bombardement aérien fut une innovation française, portée par l'escadrille Camp de Mailly du capitaine Bordage lors de la campagne du Maroc en 1913. Comme je l'ai évoqué plus tôt, je fis partie de l'aventure et eus l'occasion d'y jouer un rôle clé au sein de la section d'aviation. En effet, plusieurs idées me vinrent lors de longues reconnaissances effectuées au-dessus du Maroc en 1912. Nous passions des heures en l'air pour identifier les embûches ennemies sur la route de la colonne du général Franchet d'Espéré. Mon compagnon d'avion, capitaine et dessinateur, dressait des croquis panoramiques remarquables du pays. Une fois terminés, nous les lancions ensuite dans un sac à nos troupes au sol pour les renseigner sur les positions de l'ennemi. L'idée nous vint ensuite d'améliorer la qualité des renseignements glanés dans les airs, en proposant de remplacer les croquis, souvent trop imprécis malgré le talent de leur auteur, par un appareil photographique embarqué. De même, nous nous mîmes à rechercher un équipement de TSF pour assurer la communication entre l'avion et les radiotélégraphistes terrestres de la colonne à laquelle nous étions rattachés. Le délai qui existait entre l'observation de l'ennemi et le moment où nous pouvions en informer le commandant de la colonne permettait à l'ennemi de manœuvrer. Ces idées étaient simples et avant-gardistes à l'époque, mais de notre côté nous les jugions essentielles. Pourtant, elles furent tellement en avance sur leur temps que nous nous heurtâmes à une certaine incompréhension en haut lieu, et nous dûmes nous recentrer sur d'autres usages de l'avion. C'est en nous frottant quotidiennement aux forces des caïds locaux que nous eûmes l'idée d'emporter les sacs de pierre à bord pour les jeter sur l'ennemi. Inutile de vous dire que l'efficacité de la manœuvre fut pour le moins limitée. Cette frustration grandissante nous conduisit à envisager le largage de grenades depuis l'avion. Les essais furent à leur tour peu concluants, et l'idée de bombes larguées s'imposa soudain à nos jeunes esprits. Aucune munition de ce type n'existait alors, et c'est un peu par hasard que nous apprîmes qu'un inventeur danois, du nom de Haasen, faisait le siège de notre ministère de la guerre avec ses bombes. Elles ne dépassaient pas 1500 grammes. C'était de simples cylindres en fer blanc de la taille d'une boîte de conserve. À l'intérieur, un mortier de mélinite tenait ensemble des billes de plomb. Le cylindre était surmonté d'un manche en bois rudimentaire. L'idée géniale de cet inventeur avait été d'y fixer un petit parachute pour la ralentir et l'empêcher de s'enfoncer dans le sol. À force d'insister, nous finîmes par passer commande de 400 de ces bombes que nous pûmes larguer à la main sous les rebelles, en soutien à la colonne Gouraud. Nous eûmes rapidement l'intuition que cette arme provoquerait une réaction chez l'ennemi. Les prisonniers rebelles que nous fîmes par la suite relatèrent la terreur qui s'empara de leurs troupes. À faible distance, les billes de la bombe à Haasen fauchaient les groupes de guerriers, provoquant la panique. Ces derniers ne mirent pas longtemps à apprendre à fuir l'avion qui approchait, de peur d'y rester. L'effet moral dépassa l'effet physique recherché à l'époque. De ce point de vue, nous pûmes valider l'intuition du lieutenant belge Poutrin portant sur l'effet du bombardement aérien sur le moral de l'ennemi. De son côté, en 1913, grâce à l'entraînement sur les polygones nouvellement créés, le lieutenant Varsin de l'escadrille de bordage parvint à mettre au but 13 bombes sur 15 lors du concours de l'aérocible de Michelin, en les larguant une par une, toujours à la main. De retour du Maroc en métropole en 14, nous pensâmes à ramener mes 200 bombes à Haasen restantes. À force de persuasion, je parvins à intéresser à mon invention le général Bernhardt, le directeur de l'aéronautique. Il nous autorisa à expédier 50 de ces munitions à diverses unités, dont l'escadrille de Belfort où servait mon frère. Et vers le milieu d'août 14, au petit matin, après avoir rejoint l'unité de mon frère, je fis mon premier bombardement opérationnel sur un nid de mitrailleuses ennemies logées dans un ravin que notre artillerie ne pouvait atteindre. De retour de mission, gonflé à bloc par ce succès prometteur, je me flattais déjà d'être le premier à avoir largué une bombe depuis les airs, lorsque j'appris que mon vieil ami Balsan avait largué la veille sa première bombe sur une colonne allemande. Il fut donc le premier, dans l'histoire de l'aviation militaire, à bombarder l'ennemi depuis les airs. Le bombardement aérien était né. Un peu plus tard, en 15, un autre innovateur français, le sergent Touroud, perfectionna le concept en construisant un lance-bombe afin d'améliorer la précision du largage à la main. L'idée était simple. Il s'agissait de monter une boîte en aluminium à 4 compartiments carrés au fond de la carlingue, à côté de l'observateur. Le dispositif permettait de larguer des obus de 90 mm ou des bombes de 10 kg sur l'ennemi. Le système était tout bête. Au fond de chaque compartiment, un volet mobile et un verrou. Les projectiles non armés étaient chargés dans chaque compartiment. L'observateur les armait quelques secondes avant le tir en vissant détonateur et percuteur sur l'obus. Ensuite, il utilisait un levier qui actionnait le verrou et le projectile tombait. Un ressort refermait ensuite automatiquement le compartiment. Son système fut installé sur un voisin et les premiers projectiles furent largués avec succès d'une altitude de 700 mètres. Rétrospectivement, je réalise à quel point l'enchaînement de ces petites innovations techniques et d'usage a permis de changer en profondeur le rôle de l'avion. D'un simple engin de sport, il devint un bombardier grâce à une succession d'idées simples et souvent peu coûteuses qui finirent par changer le cours de l'histoire, bien que ce n'en fût pas l'objectif initial. Voilà l'histoire du bombardement aérien tel que je l'ai vécu et à laquelle j'ai participé. J'espère de tout cœur qu'un jour vous aurez l'occasion de lire ces quelques lignes. Nos gardes fouillent régulièrement nos cellules et confisquent tout ce qui leur paraît sensible. Il se peut donc que ces mots ne vous parviennent jamais. Cela dépendra de la sensibilité de mes geôliers face à ce texte. Si c'est le cas, tant pis. Ça m'aura permis de tuer le temps. Sinon, j'espère vous avoir un peu éclairé sur le génie créatif de ces innovateurs qui ont contribué à faire de notre armée, souvent avec des moyens matériels limités, ce qu'elle est aujourd'hui, et qui ont conféré à la France sa place parmi les grandes puissances aéronautiques dans le monde. De ce point de vue, je ne saurais jamais les remercier à leur juste valeur. Bien affectueusement, Général Armand Després de la Morlaix.